Vous écoutez
RMC.
Lundi 1er juin,
l'info sur RMC.
Il est 6h, merci vraiment d'être avec nous ce matin. Lundi de Pentecôte, 6h, les infos. Céline Kallmann, bonjour Céline.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. L'Amérique s'embrase, manifestations et scènes d'émeutes de pillage partout dans le pays pour dénoncer les bavures policières et les disparités raciales, des routes coupées, des voitures et des commerces incendiés. Demain, en France, entre en vigueur de la phase 2 du déconfinement, limite des 100 km supprimés, réouverture des cafés et restaurants et retour à 100% du trafic sur les TER. En revanche, dans les EHPAD, les visites restent très strictes. Bienvenue à tous sur RMC. C'est une vague de colère qui est en train de s'étendre comme une traînée de poudre. Minneapolis, New York, San Francisco, Miami, Philadelphie, Chicago ou encore Los Angeles. La contestation pour dénoncer les bavures policières et les disparités raciales s'intensifie aux États-Unis une semaine après la mort de George Floyd. Cette nuit, un couvre-feu a même été décrété à Washington après de nouvelles manifestations près de la Maison-Blanche. Paul Barcelone.
Habituellement éclairée la nuit, la Maison Blanche est plongée dans le noir, encerclée par des dizaines de manifestants qui, au cri de justice pour George Floyd, multiplient les feux de palette. La police réplique par des tirs de gaz lacrymogène et un hélicoptère survole encore la zone. Pourtant, à Washington, comme dans une quinzaine d'autres villes, un couvre-feu est imposé pour tenter de ramener le calme du jamais vu depuis l'assassinat de Martin Luther King il y a 52 ans. Mais alors que l'Amérique traverse une sixième nuit de manifestations, Donald Trump accuse l'extrême gauche radicale. Sur Twitter, le président américain annonce vouloir désigner le mouvement antifasciste comme une organisation terroriste. Pour autant, la situation reste très confuse. Près de Minneapolis, l'épicentre du mouvement, un camion-citerne a foncé en direction de milliers de manifestants rassemblés sur une autoroute, symbole de l'extrême tension qui règne encore aux États-Unis.
Et dans un instant, Jean-Jacques, vous serez avec Cédric Fesch en direct de Minneapolis. C'est là où la contestation a commencé. J'ajoute que le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, s'est rendu sur les lieux d'une manifestation samedi dans son état du Delaware. L'ex-policier impliqué dans la mort de George Floyd va comparaître aujourd'hui pour la première fois devant un tribunal. Derek Chauvin est incarcéré depuis vendredi dans une prison du Minnesota. Marion Fournet, on en sait plus ce matin sur cet officier qui a déjà été visé par une dizaine de plaintes.
Oui, 18 plaintes selon CNN et aucune sanction, seulement 2 lettres de réprimande. En 19 années de service, Derek Chauvin a été impliqué dans de nombreux incidents, dont 3 fusillades. En 2006, avec d'autres policiers, il abat un homme de 42 ans. Les agents l'accusent d'avoir tiré sur eux au fusil de chasse. En 2008, l'officier blesse par balle un suspect pendant une intervention pour violence domestique, un acte qui lui a valu une médaille de bravoure. Autre incident dans lequel est impliqué Derek Chauvin. En 2011, un homme de 23 ans est blessé pendant une course-poursuite avec une patrouille dont faisait partie agent. Derek Chauvin, un policier au passé sulfureux. Et concernant la mort de George Floyd, de nouveaux détails accablants apparaissent. Plusieurs médias américains ont fait un décompte. L'agent a laissé son genou sur le cou de Floyd pendant 8 minutes et 46 secondes, dont quasiment 3 minutes après les supplications de l'Afro-Américain.
Et puis le geste de 3 footballeurs ce week-end en Bundesliga, dont Marcus Thuram. C'est le fils de Lilian Thuram qui est très investi sur les questions de racisme. Après avoir inscrit le 2e but de son équipe, il s'est agenouillé en penchant la tête vers le bas, un geste devenu symbolique aux États-Unis. RMC 6h03, le compte à rebours est lancé pour l'ouverture des bars, restaurants. La phase 2 du déconfinement débute officiellement demain, mais certains n'ont pas attendu. Et la limite des 100 km a par exemple été bravée par des impatients. Aurélien Tiercin, Garance Munoz.
Plus de 2 mois sans voir sa copine, Enzo ne voulait plus attendre. Dès ce week-end, il a quitté Toulouse pour la rejoindre à Paris et tant pis pour la limite des 100 km.
J'admets, on se relâche de plus en plus. On a senti un vrai basculement dans le discours. Là où ils étaient totalement inquiets il y a un mois, là, bon, mais les nouvelles sont bonnes, encore plus bonnes que ce à quoi on s'attendait. Du coup, nous, ça nous rassure dans nos décisions de déplacement.
Omar, lui, part travailler à Biarritz sans trop se poser de questions.
Moi, je me suis dit que la barrière des 100 km est élevée. Donc du coup, j'ai pas pris d'autorisation.
Et il a bien profité des derniers jours dans le parc près de chez lui.
Il y en a qui jouent au foot, il y en a qui font du sport, de la muscule, d'autres qui font des barbecues. Tout se passe bien, la vie normale. Hein.
Retour à la normale aussi pour Marisol, attablée à une terrasse de café déjà ouverte.
C'est convivial, il y a ma famille, les gens sont tous dehors dans toutes les terrasses, tout le monde est debout en train de boire des verres.
Dès demain, dans toute la France, les terrasses pourront rouvrir légalement.
Et ce week-end, au moins 10 établissements parisiens ont été verbalisés pour avoir ouvert leur restaurant trop tôt. Dès demain, fini la politique d'un siège sur deux occupé dans les trains. Retour à 100% du trafic sur les TER. Il faudra attendre le 24 juin pour que ce soit le cas dans les TGV, dans l'aérien. Les nouvelles règles sanitaires seront publiées aujourd'hui. Un retour à la normale dans beaucoup de secteurs, mais dans les EHPAD, il faudra encore attendre. Aucune date officielle pour la reprise des visites habituelles. Les règles sont toujours très strictes, ce qui devient insupportable pour les résidents et leurs familles. Nicolas Trénaud et Margot Bédé ont pu le constater dans le Grand Est, dans un établissement près de Mulhouse.
Depuis sa chambre au rez-de-chaussée, Louis a vu sur un parterre de fleurs sauvages. Une fois par semaine, sa fille l'écueille et lui dépose sous sa fenêtre, à défaut de le prendre dans ses bras.
Ah voilà, merci Daniel.
Ah, c'est une manière de se dire bonjour, quoi.
Daniel espérait aujourd'hui voir son père autrement.
Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse rentrer, au moins avec des masques, ou éventuellement les sortir un petit peu dehors, parce que là, ça donne parfois l'impression d'un zoo. À bientôt.
À bientôt, ouais.
Comme Louis, les 65 autres résidents de cette EHPAD se languissent de leur famille. Trois présentent même des signes d'affaiblissement, des symptômes qui ne trompe pas pour Valérie Véguériche, médecin coordinateur de l'établissement.
C'est vrai que l'impact est très important au niveau du moral de nos résidents. Certains refusent même de manger. Les gens se laissent littéralement mourir.
Sans réponse à donner aux familles, la directrice Martine Vanza attend des consignes du gouvernement.
On est plus crédible actuellement, donc il faut absolument que mardi, nous ayons des dates fixes pour pouvoir dire aux familles, ben voilà, à partir de telle date, vous pourrez rentrer dans la structure avec, bien sûr, toutes les consignes de sécurité.
Cette directrice a déjà rédigé un mail pour prévenir les familles. Il ne manque plus que le feu vert des autorités pour l'envoyer.
Les États-Unis ont envoyé au Brésil 2 millions de doses d'hydroxychloroquine dont l'utilisation pour traiter le Covid-19 est controversée. Au Brésil, où des heurts ont opposé dans le centre de Sao Paulo plusieurs centaines de partisans et d'adversaires du président brésilien Jair Bolsonaro, ce dernier a une nouvelle fois bravé les règles sanitaires en participant à un rassemblement. Le Brésil qui enregistre près de 500 000 nouveaux cas de coronavirus, près de 30 000 personnes sont mortes. Réunion cruciale demain pour le constructeur automobile Renault. Le ministère de l'économie va échanger avec les représentants syndicaux, les élus locaux. Bruno Le Maire et Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, seront là. Ce dernier a déclaré hier n'avoir aucune intention, a priori, de fermer l'usine de Maubeuge. Les salariés du site, eux, sont loin d'être rassurés, Romain Cluzel.
Salarié depuis 30 ans sur le site de Maubeuge, Samuel Beauvois a suivi avec attention les déclarations de Jean-Dominique Sénard, le patron de Renault, et ce responsable du syndicat Sud n'est pas convaincu.
Une nouvelle fois, nous ne sommes pas rassurés, on attend toujours des réponses. L'ensemble des salariés de l'usine a écouté l'interview de Monsieur Sénard, mais aujourd'hui, c'est toujours de la colère, étant donné qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé.
Car l'assemblage du Kangoo, principale activité de l'usine, pourrait être transféré à Douai. Samuel Beauvois espère faire bouger les lignes demain lors d'une réunion au ministère de l'économie avec le président de Renault.
Nous, on va se battre pour le maintien de l'emploi et on reste quand même optimiste. Nous, on veut repartir de Bercy mardi et avoir confirmation que le site est maintenu, que sa production est maintenue et que les salariés sont maintenus.
Le maire de Maubeuge, Arnaud Descani, sera lui aussi présent et il demande plus de garanties de la part du patron de Renault.
On y va déterminé, on y va dans un esprit évidemment d'écoute. Mais par contre, si l'écoute c'est pour nous dire que l'assemblage ira à Douai, c'est clair, ça sera non. Donc on va se bagarrer.
Pour appuyer leurs arguments, Arnaud Descani et les syndicats mettent en avant la productivité de l'usine de Maubeuge, une des meilleures du groupe.
Reportage signé Romain Cluzel.
Bien, et nous suivrons cela avec impatience, bien sûr, et avec précision. Merci beaucoup Céline, on vous retrouve tout à l'heure. D'abord, avant de repartir aux États-Unis, j'ai un cadeau à vous faire, un jeu. Mais oui, vous allez pouvoir gagner quoi ? 6000 euros, 500 euros de courses tous les mois. Oui, pendant un an.
Ah oui.
6 000 euros. C'est pas mal, non ?
Bah oui, beau cadeau.
C'est pas mal. Sur RMC et RMC Découverte. Un an de course, oui. 500 euros tous les mois pendant un an, soit 6 000 euros. Pour cela, ce n'est pas compliqué. Vous répondez à la question que je vous pose. Quelle est la dernière région de l'Hexagone encore en orange ? Île-de-France ou Alsace ? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez 1 pour l'Île-de-France, 2 pour l'Alsace, par SMS au 732-16. SMS 732-16. Le gagnant ou la gagnante sera tiré au sort le vendredi 12 juin. Nous allons jouer jusqu'au vendredi 12 juin. Tous les matins, une question. C'est celui ou celle qui répondra tous les jours bien à la question qui gagnera à la fin. C'est 6 000 euros. C'est pas rien. Hein, 6 000 euros. Il est 6h09. Vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous. Nous partons pour les États-Unis. Charles Magnien nous a rejoint.
Bonjour.
Ainsi que Mathieu Rouault.
Bonjour,
Bonjour Mathieu.
À tous.
Ça appelle sur les États-Unis, on a quelques...
Alors, oui, sur les États-Unis, il y a un débat sur
Est-ce qu'il faut manifester ici? Est-ce que vous iriez manifester
en soutien à George Floyd?
Exactement. Marie nous écrivait sur le Facebook Bourdin Direct. Non, ça ne se passe pas chez nous. On n'a pas organisé de manifestation ici. Et il y a plusieurs réponses qui disent mais si, c'est un sujet, c'est un combat qui nous concerne tous au-delà des frontières.
Oui. Il y a eu des manifestations en Europe, pas à Paris effectivement, mais à Londres, à Berlin ou à Rome.
Bien, sixième nuit de tension aux États-Unis dans une 75 villes des comptes du New York Times réprimées par la police, l'armée, New York, Philadelphie, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Angeles, Atlanta, Miami. Enfin, j'arrête là la liste. La colère s'est emparée du pays après la mort, donc, il y a une semaine à Minneapolis. Nous verrons dans quelles conditions d'un homme noir. Nous reviendrons sur ce décès d'un homme noir de 46 ans, George Floyd, des mains d'un policier blanc. Caroline Philippe, quelles sont les raisons d'une telle colère ?
Voitures brûlées, magasins pillés, heurts avec la police. Pour Jenny, habitante de Minneapolis, la violence est l'unique moyen de se faire entendre.
On a trop souvent manifesté pacifiquement. On est venu avec des panneaux, mais ça ne marche pas. Aucun policier blanc n'a jamais été condamné après la mort d'un homme noir.
Depuis sa mort il y a une semaine, George Floyd est devenu le symbole de la lutte contre les violences policières aux yeux d'une autre jeune manifestante, Erika.
Le traitement des noirs aux États-Unis est absurde. Ce n'est pas correct du tout. Nous voulons que justice soit faite et que cet officier de police soit tenu responsable de ses actions.
Mais la mort de George Floyd révèle de manière plus globale le sentiment d'inégalité ressenti par la communauté noire aux États-Unis et c'est intolérable pour Tim Walz, gouverneur du Minnesota.
Vous ne pouvez pas continuer à dire que c'est un endroit où il fait bon vivre si votre voisin, à cause de la couleur de sa peau, n'a pas cette même chance.
La crise sanitaire actuelle exacerbe cette situation, explique Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
L'étincelle, elle prend aussi parce qu'on est dans un contexte où les Noirs sont particulièrement touchés par les inégalités et par l'accès à la santé, le chômage, la faillite. Et donc tout ceci fait un cocktail un peu explosif qui permet, entre guillemets, les mobilisations qui se déroulent aujourd'hui.
Et pour elle, le discours de Donald Trump, qui n'a jamais condamné le comportement de ses policiers, contribue également à la violence de ces émeutes.
Il est 6h12. Qui était George Floyd ? Quentin Vinet.
George Floyd, c'est un Afro-Américain, un Texan de 46 ans, deux fois papa et même grand-père d'une petite fille, au Texas, qu'il a passé la majeure partie de sa vie avant de déménager, c'était il y a quelques années, à l'autre bout du pays, donc dans cette ville de Minneapolis. C'est là-bas, à Minneapolis, qu'il refaisait sa vie après une condamnation à 5 ans de prison pour un vol à main armée. Là, on était en 2007, une affaire dans laquelle il a plaidé coupable, accusé d'avoir porté un pistolet sur la victime.
Oui, s'il est parti à Minneapolis, c'est parce qu'il a été en quelque sorte victime d'abord du Covid-19. Il a perdu son boulot à cause du Covid-19. Ses proches se souviennent surtout de son passé de sportif.
Oui, décrit comme un basketteur brillant, joueur de football américain dans sa jeunesse, basketteur aussi au point d'être proche avec un joueur NBA, musicien également. Quelques-unes de ses chansons sont d'ailleurs encore disponibles sur Internet. Décrit effectivement par ses proches comme un géant doux. Il mesurait 2 mètres et travaillait notamment comme agent de sécurité dans un bar en tant que videur, un bar fermé depuis mars en raison de l'épidémie, un bar dans lequel a également travaillé Derek Chauvin. Derek Chauvin, c'est l'ex-policier que l'on voit sur la vidéo de l'interpellation, désormais en prison, inculpé pour homicide involontaire et déjà impliqué dans le passé dans 3 fusillades, dont une mortelle.
Et le frère de George Floyd évoque une conversation rapide qu'il aurait eue avec Donald Trump.
Oui, il a pu discuter avec le président américain. Enfin, discuter, c'est un grand mot, parce que ce frère de George Floyd raconte maintenant dans la presse américaine, dans une interview, qu'il essayait de lui parler, mais que Donald Trump n'arrêtait pas de lui couper la parole, comme s'il voulait me dire « Je ne veux pas entendre de quoi tu me parles ».
Bien. Il est quelle heure ? Il est 6h14. Nous allons prendre Olivier, un peu de pub, et ensuite nous partirons pour Minneapolis. Olivier, les roses, bonjour Olivier, dans le Val-de-Marne.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Merci d'être avec nous ce matin. Ces manifestations, vous suivez ça de près ?
Oui, on essaye de suivre avec entre le travail, sur les médias, sur BFM, sur Facebook, sur plusieurs choses, on essaye de suivre, oui.
Oui, qu'en pensez-vous ?
Franchement, moi je trouve que les personnes ont raison de manifester.
Oui.
On dira que la violence ne résout pas tout. Mais la violence ne résout pas tout des deux côtés, quoi. Parce que ça, c'est un acte violent que le policier a eu à faire sur la personne. Voilà, bon, je suis un peu ému de passer à la radio, donc ça fait bizarre, quoi, parce que je vous écoute depuis pas mal de temps.
C'est vrai?
Ben, ouais, ça fait depuis pas mal de temps. Bon, à chaque fois, je me dis que je vais appeler.
Ben, vous voyez.
Ouais, ça. Donc, non, mais moi, je trouve, j'approuve.
Ouais.
Et s'il faudrait le faire, faire des manifestations
en France,
J'y serai, quoi, parce que.
Mais manifestation pour dire quoi en France, Olivier?
Ben déjà, pour, ça peut nous, ça arrive aussi ici, Monsieur Jean-Jacques Bourdin. Il faut pas se leurrer. Je pense arriver à un moment pour guérir un mal, il faut se dire les choses.
Ça arrive. Qu'est-ce qui arrive ici aussi en France?
Ben, il y a des dérapages de la part de la police. Donc pour prévenir, parce que ici, je pense que sincèrement en France, je pense que nous sommes sur un, il y a un foyer, quoi. Il y a un étincelle. Aux États-Unis, il y avait la même chose. Donc, George Floyd, on va dire, c'est devenu un symbole, quoi, le déclencheur. Mais c'est pas le premier à être mort de cette manière-là. Ici aussi, il y a la même chose. Donc, est-ce qu'on va attendre qu'un accident devienne un symbole ou on prend conscience de ce qui se passe à l'extérieur de ce cas-là de George Floyd pour améliorer, quoi, pour corriger les erreurs de tout le monde. La population fait des erreurs, mais la police fait des erreurs. Qu'ils arrêtent de nous dire aussi qu'ils ne font pas d'erreurs. Tout le monde doit reconnaître sa part. C'est comme ça qu'on guérit quelque chose, quoi.
Bien. Merci, Olivier. Dans tous les cas, merci. Et merci d'avoir appelé et d'être avec nous le matin. Salut, Olivier. Bien, il est parti, Olivier. Il est 6h16. Merci d'être avec nous. Mathieu.
Dans un instant, nous irons à Minneapolis rejoindre notre correspondant Cédric Fesch, qui est sur place. Les tensions ont encore été très vives cette nuit.
RMC, Bourdin Direct.
Je vous le disais, le Facebook Bourdin Direct, Marie nous disait non, il n'y a pas à manifester en France au sujet de ce qui se passe aux États-Unis, ça ne se passe pas chez nous. Lamine répond, moi j'irais bien manifester en France et dans le monde entier d'ailleurs, c'est une violence raciale, c'est affreux, il faut arrêter de dire que ça ne nous concerne pas. Philippe nous dit qu'on a des problèmes, nous aussi, dans les banlieues, c'est indépendant des origines ethniques ou culturelles, ce n'est pas racial mais c'est plutôt un racisme social, ça pourrait aussi nous péter à la gueule, écrit Philippe ce matin. J'avais aussi ce message de Jean-Pierre de Chine qui nous dit « Le problème, c'est que manifester en France comme aux États-Unis, c'est que c'est un sujet trop passionné. Le jour où on pourra avoir un débat dépassionné sur le racisme en France, on pourra peut-être envisager de manifester. Mais en ce moment, avec ce qu'on voit, racisme anti-chinois, musulman, noir, etc., ça me paraît très compliqué. C'est aussi ce que dit Talou qui a peur, s'il y a manifestation, de revoir les casseurs en France. »
RMC au 32-16.
45 centimes la minute.
RMC 6h-9h.
Bourdin Direct.
Bien, il est 6h21, l'actualité en direct le matin sur RMC. RMC Découverte, nous partons pour Minneapolis rejoindre Cédric Fesch, envoyé spécial de BFM TV, d'RMC, d'RMC Découverte, là-bas, sur place. Cédric, il est quelle heure? Il est 23h20 à Minneapolis, c'est bien cela? Quelle est la situation? Exactement. Quelle est la situation, Cédric?
Bah écoutez, vous devez voir derrière moi, au loin, des lumières, des gyrophares. Ce sont des policiers qui tiennent un barrage parce que il y avait à cet endroit-là, derrière moi, toute la journée, une très grosse manifestation. Et depuis 20h ici, il y a un couvre-feu qui interdit à tout le monde d'être dans la rue, qui essaie de faire rentrer les manifestants chez eux. Certains sont rentrés chez eux, mais il en restait. Alors certains ont été arrêtés. Je les vois régulièrement partir dans des bus de la ville de Minneapolis. Et c'est un petit peu plus compliqué avec ceux qui ne veulent pas rentrer chez eux, qui défient le couvre-feu. Et là, par exemple, là où vous voyez où je suis dans une entrée d'immeuble. Je peux pas m'approcher plus loin parce que là, je suis à la limite de la portée de tir de ballon caoutchouc. Et je peux vous dire qu'ils n'hésitent pas à tirer des ballons caoutchouc sur les piétons et sur les voitures qui s'approchent de ce barrage.
Cédric Fesch, le gouverneur de l'État du Minnesota a appelé au calme. Appel entendu. Ça a été moins violent hier soir que les nuits précédentes.
Écoutez, ce qui a changé la donne, c'est que hier, donc pour ce deuxième couvre-feu, le gouverneur, qui avait demandé le renfort de la garde nationale, a eu 2400 hommes de la garde nationale au total. Et le recours à la force a été extrêmement important. Les policiers, à partir, donc le couvre-feu était à 20h, et trois quarts d'heure après 20h, après le début du couvre-feu, les policiers ont chargé les manifestants très violemment, avec des grenades lacrymogènes, des grenades assourdissantes, sans faire de distinction, y compris sur les journalistes. Il y a même des habitants qui étaient sur le pas de leur porte, dans leur pavillon, dans leur jardin, qui ont reçu des balles en caoutchouc pour les faire rentrer chez eux. Ça a été critiqué par le maire de Minneapolis, qui a dit que la police avait maltraité certaines personnes. Mais n'empêche que c'est la première nuit depuis mardi, lendemain de la mort de George Floyd, qu'il n'y a pas eu de dégâts importants, pas de gros incendies.
Bien, merci Cédric Fesch. En direct de Minneapolis ce matin, trois images fortes aux États-Unis durant tout le week-end. Charles Magnin, tous les matins, trois histoires, trois images. Charles.
Eh ben alors, il y a évidemment toutes ces images de violence que l'on voit en boucle, et parmi les images de symboles de cette tension, il y a eu ce week-end ces voitures de police à New York qui foncent dans la foule pour se dégager, heureusement, sans faire de blessés. Ou encore à Salt Lake City, l'image incroyable de cet homme qui sort de sa voiture armé d'un arc et de flèches avec lesquelles il menace les manifestants avant d'être maîtrisé. Mais ce week-end, plusieurs images plus pacifiques ont aussi fait du bruit sur les réseaux. Par exemple, ces milliers de manifestants à Denver qui se sont allongés devant le Capitole du Colorado en criant « I can breathe », »,« Je ne peux plus respirer », les derniers mots de George Floyd. De manifestants face contre terre, image forte. Et puis autre image symbolique, cette fois dans le Michigan, où le shérif de la ville de Flint est allé à la rencontre des manifestants pour leur dire qu'il les soutient dans leur combat, que la police de sa ville est avec eux.
We want to be with y'all for real. So these cops love you.
S'exécutent, se joignent à la marche. D'ailleurs, dans le même état d'esprit, on a vu des policiers mettre un genou à terre dans plusieurs états américains en forme d'hommage à George Floyd. Enfin, une voix qui a touché l'Amérique ce week-end, celle de Kidon Bryant, adolescent noir, chanteur de gospel. Il a à peine 12 ans et sur Instagram, il a publié une courte vidéo en forme de cri de colère. « Je suis un jeune homme noir, dit-il. Je fais tout ce que je peux pour me tenir debout. Mon peuple ne veut pas d'ennui. Nous avons assez lutté. Je veux juste vivre. » Message qu'il chante face caméra.
I'm a young black man doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind, I just wanna live. I just wanna live.
Kidron Bryant, magnifique, 12 ans, voix magnifique. Sa vidéo a été relayée par des dizaines de personnalités, Barack Obama, LeBron James, et vue par des centaines de millions d'internautes.
Eh bien, nous réécouterons. Merci Charles, merci. Pendant ce temps-là, nous sommes en fin de phase 1 du déconfinement. Demain, nous attaquons la phase 2 de ce déconfinement. Certains commerçants n'ont pas attendu le 2 juin à Paris, Quentin Vinet, pour ressortir les terrasses.
Et les premières sanctions sont tombées ce week-end. Au moins 10 établissements parisiens ont été verbalisés durant le week-end. Exemple, dans une crêperie du 7e arrondissement, dans un bistrot du 10e, dans deux autres établissements du 18e. Tous ces restaurants ont été priés de ranger leurs terrasses. C'était samedi, les clients ont été invités à quitter les lieux par des patrouilles de police. Les gérants, un petit peu trop pressés, ont été verbalisés lourdement, puisque l'amende pour non-respect de fermeture d'un commerce est portée à 1 500 euros, c'était il y a quelques semaines, et les préfets peuvent aussi décider de la fermeture administrative des restaurants en faute. C'est ce qui est arrivé à un café d'ici les Moulineaux, juste à côté de Paris, au mois de mars.
Les règles n'ont pas toujours été respectées à la plage.
On est repassé en mode statique. Vous vous souvenez du débat plage dynamique, plage statique? Bon, tout ça, c'est fini. Deux jours avant l'heure, on est repassé en mode statique. On a ressorti les parasols et allongé les serviettes sur les plages du Pays Basque, notamment. Je donne un exemple sur la grande plage de Biarritz. Il y a toujours, c'est vrai, les barrières pour marquer les entrées
et les sorties de la plage, mais ceux qui veulent étaler leurs serviettes n'en sont plus empêchés comme il y a quelques jours.
Et puis, les Français n'ont pas toujours été exemplaires.
Très nombreux détritus ont été ramassés sur l'esplanade des Invalides à Paris après des apéros ou des après-midi au soleil, c'est vrai, mais il n'y a pas qu'à Paris.
Regardez-moi les images.
À Lyon, par exemple. À Lyon, les berges du Rhône.
Le monde d'après, comme
les berges du Rhône, hier à Lyon, avaient des aires de décharge. On a vu de nombreuses bouteilles de bière, on a vu des restes de pique-nique également. De nombreux détritus ont également été observés sur une plage du Canet, on est au bord de la Méditerranée, dans les jardins de Versailles, sur les pelouses du château à Caen. Et puis les mauvais réflexes reviennent également sur les plages de l'Atlantique.
Philippe est avec nous dans l'Ain. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bonjour, ça va mon cher Philippe?
Ben, ça va pas mal, au travail.
Vous êtes au boulot. Ben oui, comme nous, le lundi de Pentecôte. Exactement, Philippe. Vous êtes taxi, hein, je crois.
Ouais, chauffeur taxi, oui.
Chauffeur de taxi. Vous avez commencé à quelle heure?
Ma prise en charge de mon premier client, c'est à 5h40 ce matin.
5h40 ce matin, voilà. Bon.
Donc, je suis parti de chez moi à 5h du matin.
À 5h du matin, eh ben, comme nous.
Eh ben, ouais. Et je suis ravi de vous passer l'antenne.
Eh ben, merci, moi, je suis ravi. Ça fait longtemps que vous êtes auditeur, Philippe?
Oh là, ça fait depuis que je suis taxi, donc ça fait au moins 20 ans que je suis...
Ah bon, d'accord, bon.
J'écoute RMC, moi.
Ah bon, d'accord, bon. Ben, Philippe, Philippe...
Je vais faire une petite parenthèse. Allez. Pour l'histoire de George Floyd, là, ce qui se passe en Amérique. Je suis un anti-raciste prononcé et vert. Je comprends pas que... S'il y avait des manifestations en France contre le racisme, contre ces abrutis de gens qui tuent les autres... Parce qu'on n'a pas le droit de nous manifester. Je trouve ça horrible. Donc, s'il y avait des manifestations en France, je serais le premier en première ligne.
Vous serez en première ligne.
Je vais vous le dire.
Bien, bon courage, Philippe.
Merci à vous.
Et belle journée.
Bonne journée à tous.
Et belle journée, hein, Philippe.
Merci, au revoir.
Il est 6h29, la machine à café, 32-16, la touche 5. Quentin Vinet.
Et vous envoyez le mot matin par SMS au 732-16.
Merci Quentin, Mathieu.
Nous retournerons aux États-Unis pour savoir, comprendre, expliquer surtout
ces tensions
récurrentes raciales. Aux États-Unis. Tout savoir sur la question raciale avec Audrey Célestine, maître de conférence à l'Université de Lille. Elle est avec nous juste après le journal de 6h30 sur RMC.
Il est l'admi, 6h30 juste, vous êtes sur RMC, RMC Découverte, le canal 24 de la TNT, et Anne-Sophie Balbière est là pour les dernières informations. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Un drapeau américain en flammes près de la Maison Blanche. La colère continue de se répandre après la mort de George Floyd. Des affrontements violents ont éclaté à Washington. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Le retour des voisins dans les trains finit, la politique du un siège vide sur deux. La SNCF promet une offre à 100% à partir de la mi-juin. Et puis, les règles du chômage partiel évoluent. Les patrons doivent désormais payer 15% de l'indemnisation. Coup dur pour tous ceux qui ont du mal à relancer leur activité, vous l'entendrez. RMC 6h31. C'est l'embrasement aux États-Unis une semaine après la mort de George Floyd, 46 ans. Les manifestations contre les violences policières et le racisme se multiplient dans 75 villes au moins, selon le New York Times. Seattle, Los Angeles, Chicago, Atlanta et désormais la capitale, Washington. Un couvre-feu est entré en vigueur il y a 1h30 environ. Jean-Bernard Cadier, vous êtes le correspondant d'RMC sur place.
On entend encore des explosions au centre de Washington, même si à l'heure qu'il est, les manifestants sont en train de s'éloigner de la Maison Blanche. Il y a eu de violents affrontements aux environs de 23 heures en heure locale. 23 heures, c'était l'heure du couvre-feu qui a été instauré ici pour la première fois cette nuit et qui a été en quelque sorte testé par les manifestants qui ne sont pas rentrés chez eux, mais qui se sont retrouvés face à des forces de l'ordre extrêmement déterminées, beaucoup plus fermes que les nuits précédentes. Du coup, les manifestants ont reflué et c'est là qu'ils ont mis le feu à plusieurs bâtiments, notamment à l'église Saint-John, qui est juste en face de la Maison Blanche et qui est considérée comme l'église des présidents. Cette fermeté des forces de l'ordre, on est en train de la constater dans plusieurs autres grandes villes américaines où la situation reste très volatile à l'heure qu'il est, comme ici à Washington. Une quarantaine de villes ont décrété des couvre-feux. Dans beaucoup de villes, il n'est pas respecté.
Jean-Bernard Cady, correspondant RMC BFM TV à Washington. Donald Trump promet de stopper la violence collective. Le président américain désigne comme responsable les gauchistes radicaux et notamment la mouvance antifasciste qu'il veut inscrire comme organisation terroriste. Comme d'autres sportifs, l'ancienne star du basket, Michael Jordan, dénonce dans un communiqué ce matin le racisme enraciné aux États-Unis. Derek Chauvin, le policier blanc qui a maintenu durant près de 9 minutes son genou sur le cou de George Floyd, a été arrêté, inculpé d'homicide involontaire. RMC 6h32, faire sa sieste sans personne à côté, étaler ses affaires, étendre ses jambes librement, c'était le bon côté de la règle du un siège vide sur deux dans les trains à cause du coronavirus en France. Mais dès demain, terminé, toutes les places seront accessibles. C'était une demande de la SNCF et le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a dit oui. 100% de l'offre SNCF sera commercialisée à partir de la mi-juin. Le masque reste pour l'instant obligatoire. Thomas Chupin.
Alors c'est vrai que pour de nombreux voyageurs, c'est une sorte de libération.
Très très bonne nouvelle, excellente nouvelle même.
Il faut tourner la page, hein. On ne peut pas faire partir un train de Marseille sur Paris avec la moitié des passagers.
Mais il y a aussi encore beaucoup de méfiance.
C'est très bien, mais un peu trop tôt pour la reprise à la normale.
Je ne sais pas, on est dans le doute. Après, on a toujours peur de l'inconnu.
C'est pour cela que le secrétaire d'État au transport mise sur une fréquentation de 50% alors que l'offre sera complète. Il y a encore beaucoup de stress face au virus, explique Bruno Gazo, le président de la FNOT, Fédération d'usagers des transports.
Je ne pense pas qu'ils seront pleins tout de suite. Ça va prendre du temps. Moi, je ne pense pas que ce sera le cas totalement pendant l'été. Je pense que les conditions de reprise à la rentrée seront un élément de la reprise de confiance.
Et pour séduire, la SNCF n'a pas le choix, selon l'économiste Arnaud Aimé. La politique tarifaire sera déterminante.
Elle ne peut pas augmenter les prix parce que sinon, les gens choisissent de ne pas voyager ou bien de voyager autrement. Que le train soit plein ou que le train soit vide, les coûts sont les mêmes. Toute personne qu'on accueille en plus à bord des trains, c'est toujours du chiffre d'affaires en plus, c'est toujours ça de gagner.
Il faudra aussi à la SNCF faire savoir par tous les moyens à ses usagers que ses wagons, ses sièges, ses accoudoirs, ses tablettes sont parfaitement désinfectés.
Alors demain, c'est aussi jour de réouverture des bars, cafés, restaurants dans les zones vertes en Île-de-France. On pourra seulement s'installer en terrasse, mais à Paris, les tables et les chaises pourront être installées sur une partie de l'espace public, trottoir, place de stationnement. Les établissements devront fermer à 22h. Le changement était attendu. Les entreprises assumeront à partir d'aujourd'hui 15% du coût du chômage partiel. L'État et l'UNEDIC prendront en charge les 85% restants. Une évolution bien visible pour les patrons qui vont devoir puiser dans leur trésorerie pour éviter les licenciements. Rémi Inc.
Cécile Fuchet dirige une imprimerie en Côte d'Or. 43 salariés, les trois quarts en activité partielle. La reprise tarde à venir et ses 15% du chômage partiel à assumer désormais lui font craindre le pire.
Ça veut dire pour une entreprise comme la nôtre aujourd'hui payer plus de 5000 euros d'activité partielle. Forcément, tout va se remettre en route, mais en route très doucement. Donc, laissez-nous le temps de reprendre pied. Ce qu'on veut pas, c'est arriver, et personne ne le souhaite, arriver au licenciement.
Autre problème, les salariés qui ont des enfants, qui n'ont pas pu reprendre l'école, seront au chômage partiel, mais la part payée par les entreprises restera la même. La double peine pour Cécile Fuchet.
On va avoir un double problème, hein, c'est que quand on aura besoin d'eux, à la fois, ils ne pourront pas être dans l'entreprise. Et le deuxième problème, c'est qu'effectivement, on devra payer cette partie qui ne devrait pas nous incomber. Je pense que ce n'est pas aux entreprises à payer la défaillance des crèches, des écoles, des garderies.
Les organisations patronales réclament donc une prise en charge à 100% du chômage partiel pour les parents qui doivent garder leurs enfants.
Et puis c'est l'un des lieux préférés des frontaliers pour acheter alcool et cigarettes moins chères. Andorre est à nouveau accessible depuis la France. Moment attendu pour les clients comme pour les commerçants. Estelle Henry.
Dans son magasin Louis Safaire, il faut que tout soit prêt pour l'arrivée des Français particulièrement friands de ses produits.
Je crois qu'il va venir tout de suite comme avant ou même plus. Ils attendent que ça ouvre pour acheter moins cher. Ils vont acheter un peu de tout comme d'habitude. Alcool et cigarettes, c'est le top.
Quelques rues plus loin, Monica finit de nettoyer les 300 mètres carrés de la plus grosse parfumerie du Pas-de-la-Casse dont elle est la gérante. Ça fait 15 jours qu'elle a commencé à se préparer à la réouverture dans le respect des règles sanitaires.
Il y a un volume de gens limité. On va désinfecter les mains, masque obligatoire.
et maintenir une distance de 1,5 m entre clients.
Une réouverture qui fait beaucoup de bien, sans oublier la prudence donc, qui reste de mise. Jean-Jacques Carrier, responsable de l'association des commerçants qui regroupe 300 commerçants du Pas de la Case.
Aujourd'hui, le fait de rouvrir, ça donne la joie de vivre un peu à tout le monde. Tout le monde est content, tout le monde s'est préparé. Tout le monde est d'un côté très très content de réouvrir et re-rentrer à la normalité. Mais on veut rouvrir de la façon la plus efficace possible au niveau de la sécurité.
Et selon les estimations des autorités, près de 20 000 personnes pourraient passer la frontière dès aujourd'hui.
Les courses, Mathieu, c'est à Deauville.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 11, Raj Kumar, outsider numéro 7, Kiyava Fushi, le 11 et le 7.
Bien, merci Anne-Sophie, on vous retrouve tout à l'heure et Mathieu reste avec nous évidemment pour surveiller tous les messages qui nous arrivent. Nous parlons du déconfinement, évidemment. Demain, c'est le début de la deuxième phase de déconfinement. Comment se passe ce week-end? Racontez-nous, nous sommes le lundi de la Pentecôte, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'incivilité. Vous avez été témoin, vous nous racontez, évidemment. Bien, nous allons revenir sur ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est grave. Je lisais ce que déclarait cette femme noire de 31 ans. Nous avons des enfants noirs, nous avons des frères noirs, des amis noirs. Nous ne voulons pas qu'ils meurent. Nous sommes fatigués que ça se répète. Cette génération ne se laissera pas faire. Nous en avons assez de l'oppression. Nous en avons assez de l'oppression. C'est ce que dit cette femme de 31 ans. Audrey Célestine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste des questions raciales américaines. Je vais revenir sur ces déclarations, sur ces manifestations, sur un peu d'explications. Moi, c'est pas facile de tout expliquer parce que là se mêle, non seulement il y a la question raciale, mais il y a aussi l'extrême gauche qui s'est mêlée aux manifestants. Il y a les suprémacistes blancs, évidemment, qui sont là aussi pour attiser la haine et attiser le feu. Des précisions sur la mort de George Floyd, on en sait un peu plus, Quentin Vinet.
On sait que c'est une commerçante qui a appelé la police le 911. On est lundi dernier, il y a une semaine précisément, accusant George Floyd d'avoir payé des cigarettes avec un faux billet. Elle se dit victime d'une arnaque. La police lui demande alors à cette commerçante si le suspect est blanc, noir, amérindien, hispanique ou asiatique et intervient quelques minutes plus tard dans la rue. George Floyd est maintenu à terre, à proximité d'une voiture. Les médias américains ont réalisé un décompte. Le policier, qui a été inculpé ensuite pour homicide involontaire, serait resté 8 minutes et 46 secondes le genou sur le cou de George Floyd. Alors, quelques instants ont été filmés par une adolescente. C'est la vidéo que l'on voit sur les réseaux sociaux. On entend George Floyd dans cette vidéo supplier les policiers, dire qu'il ne peut plus respirer. Le policier qui intervenait à ce moment-là a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 2 minutes et 53 secondes après les supplications de l'Afro-Américain.
Bien, Audrey Célestine, ce policier, Derek Chauvin, doit comparaître aujourd'hui devant un tribunal pour la première fois. On entend les manifestants scander, beaucoup de manifestants scandent, la vie des Noirs compte. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, la vie des Noirs ne compte pas ?
Pour un certain nombre de personnes, pour une grande partie d'entre eux, Afro-Américains, non, elle ne compte pas suffisamment. En tout cas, elle ne compte pas au même titre que celle des autres citoyens américains. Black Lives Matter, c'est un slogan, c'est le nom aussi d'une organisation, d'un mouvement
qui était reçu d'ailleurs à la Maison Blanche à l'époque de Barack Obama.
Qui a été reçu à l'époque de Barack Obama et puis qui s'est mobilisé dans un certain nombre de cas qui ont été médiatisés il y a quelques années, qui a également provoqué un certain nombre de réformes dans des polices locales dans certains coins du pays, mais qui, dès la campagne de Donald Trump, a été considéré comme un groupe terroriste. En tout cas, de manière rhétorique, il n'y a rien qui a été fait sur le plan judiciaire. Mais l'ambiance a complètement changé sous Donald Trump.
Vous dites que Donald Trump a permis la libération de la parole raciste ?
Oui, très clairement. Le racisme ne commence pas aux États-Unis avec Donald Trump. Ce serait
non.
Mentir que de le dire. Mais de fait, on a une grosse libération de la parole raciste. On a un certain nombre de... Puis, vous voyez, dans cette période pendant laquelle un président prônerait l'unité, prendrait acte d'un certain nombre de choses, il ferait vraiment le service minimum. Et pour le coup, il continue à alimenter des tensions extrêmement forte. C'est assez parlant. Il y a 2-3 jours, il parlait de sa base électorale, du peuple MAGA, donc Make America Great Again, qui est son slogan de campagne, en disant, mais MAGA adore les Africains-Américains, un peu comme s'ils ne faisaient pas partie de ce peuple-là qu'il est censé représenter. Donc oui, de fait, il y a quelque chose dans la présidence de Donald Trump, à la fois dans ses attitudes, ses discours, mais également dans le renforcement d'un certain nombre de politiques de suppression du vote des Noirs américains, dans un certain nombre de politiques qui vont toucher de manière disproportionnée les Africains-Américains, qui alimentent d'autant plus la colère aujourd'hui.
Il est 6h42, restez avec nous Audrey Célestine, on vous retrouve dans deux minutes pour savoir et comprendre. Je prendrai aussi Stéphane qui veut nous parler du coronavirus. Il est chef de cuisine dans un hôtel, il est dans les starting blocks, il rouvre demain après 2 mois et demi de fermeture, il va tout nous raconter. Vous ne ratez rien, vous êtes sur RMC, à tout de suite.
RMC
6h-9h,
Bourdin Direct.
Il est 6h46, Audrey Célestine est avec nous, maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste des questions raciales américaines. Des responsables politiques accusent des groupes d'extrême gauche et des suprémacistes blancs, Quentin Vinet.
Oui, les médias américains et les journalistes présents sur place, eux, racontent que beaucoup de manifestants sont en fait des citoyens ordinaires, non politisés. Mais effectivement, le gouverneur du Minnesota assure que les manifestants sont des anarchistes, des suprémacistes blancs ou des trafiquants de drogue qui agissent. Pourquoi ? Pour instiller la peur et déstabiliser les grandes villes. Et selon lui, la situation aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le meurtre de George Floyd. Donald Trump lui dénonce également les agissements de gauchistes radicaux, notamment la mouvance antifasciste, qu'il considère désormais comme une organisation terroriste.
Oui, Audrey Célestine, ça a dépassé la question raciale ou pas ?
Alors ça a dépassé la question raciale si on ne considère pas que la question raciale c'est une question assez globale. Oui. De fait, effectivement, il y a le gouverneur du Minnesota hier
qui est démocrate,
a dénoncé le fait que 80% des personnes arrêtées pour émeute étaient ne venaient pas de l'État. Il a plutôt pointé du doigt le fait qu'il s'agissait de suprémacistes blancs et on voit circuler. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas en fait, hein, mais on voit circuler sur les réseaux sociaux pas mal de vidéos de manifestants qui prennent des vidéos et qui montrent des personnes qui, visiblement, n'ont rien à faire de la cause et qui taguent, qui cassent, etc. Oui. Après, je pense qu'il y a...
Anarchistes.
Il y a d'autres... Plutôt des suprémacistes blancs.
Des suprémacistes blancs qui attisent...
Voilà, qui en gros n'ont pas grand-chose à faire des injustices raciales du pays. Oui. Mais après, ce qu'on voit aussi, c'est que comme à beaucoup de moments de l'histoire des États-Unis, lorsqu'on a des émeutes, des commerces sont touchés, des commerces sont brûlés. Et je voyais ce matin qu'un des sociologues spécialistes des questions d'inégalité urbaine aux États-Unis disait, mais en fait, pour une des particularités cette fois, c'est quand même que on a beaucoup de grandes chaînes qui sont touchées. Il y a aussi quelque chose d'une dénonciation d'un système économique qui est particulièrement injuste, qui depuis les années 2000 a approfondi très fortement les inégalités dans le pays. Enfin, c'est pas qu'aux États-Unis, on est dans une situation globale comme celle-ci et qu'on avait en fait la conjonction de plein de choses qui se rencontraient.
Et puis le coronavirus a ajouté à la crise, si je puis dire. Hein. Évidemment, parce que les plus touchés, ce sont les plus modeste et la population noire aux États-Unis.
C'est effectivement la population noire, mais c'est aussi le taux de chômage qui explose aux États-Unis, l'absence de filet de sécurité pour une grande partie de la population et effectivement des populations particulièrement vulnérables. Je voudrais juste revenir un instant sur la situation politique qui, pour moi, est vraiment importante. Il y a de la contestation politique de Trump également, parce que ce qui est également visé là, c'est des tentatives et des politiques systématiques d'empêchement en fait des citoyens noirs américains de participer pleinement au processus politique, et on est quand même dans une année électorale.
Merci Audrey Célestine d'être venue nous voir ce matin. Merci. Il est 6h49. Stéphane est à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Bonjour Stéphane.
Bonjour
Stéphane, chef de cuisine.
Oui, chef de cuisine. Alors, à vrai dire, je suis à côté de Saint-Just-Saint-Rambert, à Saint-Galmier, exactement, juste à côté de la Sorbonne.
Ah, Saint-Galmier, je vois très bien Saint-Galmier. Dites-moi, chef de cuisine dans un hôtel, hein, c'est ça, Stéphane ?
Un hôtel, oui, un grand hôtel qui est juste
vous pouvez le citer, vous pouvez le citer, n'hésitez pas.
Allez. C'est l'hôtel La Charpinière.
Bon, et vous allez rouvrir ?
Effectivement, oui. On va ouvrir demain, et puis c'est vrai que ça a été un sacré chamboulement, un sacré événement, cette fermeture, et puis on l'a vécu Tant mieux que mal. Et puis bon, maintenant, ça fait bien 15 jours qu'on y est, nous sommes là. Et puis on a tout remis en place. On a tout revu le concept, puisque distanciation, ben, obligatoire, ben, ça veut dire qu'il faut tout revoir, on va dire. Oui. Et puis autant en salle qu'en cuisine. Et puis maintenant, on se retrouve à être à la fin prêt. Et puis, on va tout affiner aujourd'hui. Et puis, on attend, c'est reparti pour la saison.
Eh ben, écoutez, Stéphane, j'espère que vous avez déjà des réservations.
Oui, on a quelques réservations pour la fête des mères, là, pour dimanche prochain. Mais après, de là, c'est un peu l'énigme, on va dire. C'est un peu.
C'est la grande question.
C'est la grande question, voilà, oui, c'est ça. Je ne sais pas trop où on va exactement.
Eh ben, merci, Stéphane.
Avec grand plaisir.
Et bon courage pour demain.
Merci beaucoup.
Allez, demain matin, vous nous appellerez d'ailleurs si vous rouvrez votre café, votre bar, votre restaurant. Enfin, je ne sais pas, la piscine, je ne sais pas. Bon, Mathieu,
ça va bien. J'ai des solutions.
Quoi.
Anthony Morel a des solutions pour la réouverture des restaurants, pour les écoles aussi. Des nappes, du velours et même de la peinture capable de tuer les virus. Mais oui, c'est déjà demain, dans un instant, sur RMC.
RMC,
au bain direct. En tout cas, j'en connais un qui a hâte de retourner au resto, c'est Geoffroy, qui nous écrit que ce week-end, c'était barbecue, pizza avec les amis à la maison, moins de 100 km, mais dans la semaine, c'est sûr, j'irai au restaurant avec ma femme. Sony aussi est heureux de retrouver sa liberté. Il a rendez-vous aujourd'hui à Monaco pour mettre en place un spectacle spécial Johnny. Ça fait plus de 3 mois que je ne chante plus. Il est temps de remonter sur scène pour Sony. Jean-Pierre, lui, en Chine, c'était la journée des enfants. Ils sont très très forts, ils ont tout compris pour relancer l'économie, nous dit Jean-Pierre. Tous les jours, créer une fête spéciale pour faire consommer. Donc on a fêté les enfants comme il se doit chez Jean-Pierre. Sophie est là aussi, nous souhaite un bon lundi de Pentecôte. Elle va travailler. Guy, lui, est au repos en cette journée de solidarité. C'est vrai que c'est un peu l'un ou l'autre. Laurent et Mohamed sont là aussi. Ludovic a été, lui, choqué par l'état des parcs et des pelouses après les pique-niques ce week-end. Beaucoup de déchets, on va en reparler tout au long de la matinée.
RMC au 732-16.
75 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC.
C'est déjà demain.
Allez, c'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony.
Bonjour Jean-Jacques.
De nouveaux matériaux antivirus sont en train de voir le jour pour équiper les comptoirs de café ou les tables de restaurant par exemple. Et ça tombe bien puisque nous sommes en pleine réouverture. Une nappe tueuse de virus.
C'est ça, je vous en ai apporté un petit échantillon, pas la nappe en entier, mais enfin, moins dessous de table, je sais pas comment on peut dire, c'est une toile cirée en fait, une membrane souple qui a été mise au point et brevetée par une PME iséroise et qui a la particularité de détruire le virus qui se dépose à sa surface lorsqu'on tousse ou lorsqu'on le touche avec ses doigts un peu souillés. Alors on peut l'appliquer sur plein de choses, ça peut être sur une table d'école aussi ou dans le métro, enfin voilà, mais en tout cas dans les restaurants ça va être assez intéressant. Et la particularité de cette membrane, c'est qu'à l'intérieur, vous avez des particules d'argent. Donc vous mangez sur une nappe d'argent, en plus c'est assez classe. En fait, ce qui est très particulier, c'est que l'argent, comme le cuivre dont je vous parlais la semaine dernière, a des propriétés biocides, c'est-à-dire qu'il est capable de tuer, de détruire les micro-organismes. Et ça, on en a l'intuition depuis l'Antiquité grecque. Même Hippocrate, le médecin du serment d'Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ, disait que l'argent limitait les infections. Eh bien, on se rend compte que ça sert aussi à lutter contre les virus. Alors, c'est testé en laboratoire sur différents types de coronavirus. Et en 15 minutes, on détruit 95% de la charge virale. 99,5% en une heure. Voilà. Donc voilà, un industriel iséroïque qui a mis ça au point.
Bien. Une PME lyonnaise, c'est pas très loin.
On reste dans la région.
A mis au point un velours.
Oui.
Qui supprime le virus dès qu'il est en contact avec la lumière du soleil.
Exactement. Ouais, la région Rhône-Alpes très innovante en matière de textile. Et donc, ils ont mis au point un velours qui, une fois qu'il est traité, eh bien, va, lorsqu'on le met en contact avec des UV, donc de la lumière naturelle, détruire le virus. Alors là, le chiffre, c'est après, sur les tests en laboratoire, après une minute, le tissu élimine la quasi-totalité de la charge virale. Et donc, on va pouvoir mettre ça sur des sièges de métro ou de bus, comme on le voyait à l'instant. Ça commence à être déployé dans le métro lyonnais, notamment, mais aussi sur les banquettes de restaurant, sur les dessus de lit dans les hôtels ou les moquettes. Enfin, il y a plein d'applications possibles.
Bon, tout un business est en train de se développer autour de ces matériaux décontaminants. On voit même apparaître des peintures antivirus.
Exactement, des peintures auto-décontaminantes. Donc même chose, lorsqu'elles sont en contact contact avec le virus, elles vont le détruire instantanément. Alors là aussi, on va utiliser du cuivre, notamment des matériaux à base de cuivre, et on va pouvoir en enduire à peu près n'importe quoi. Ça peut être les murs d'un restaurant, mais ça peut être même la coque d'un smartphone, par exemple. C'est une entreprise française qui s'appelle Metal Skin Medical qui a mis ça au point. Et là, on détruit 99% du virus en moins de 3 minutes. Ça a été testé dans un laboratoire du CNRS.
Est-ce que vous savez qu'Anthony était surnommé Terminator, non? Il tue le virus. Il trouve tous les moyens pour tuer le virus.
Anthony, des moyens français. Bah oui, bien sûr. Il faut mettre en avant les PME innovantes françaises.
Vous avez raison. Pour savoir où on en est avec ce virus, ce coronavirus, ne ratez pas Arnaud Fontanet tout à l'heure. Il est épidémiologiste à l'Institut Pasteur, vous le connaissez bien, et surtout il est membre du conseil scientifique. Arnaud Fontanet, notre invité, 8h30 sur RMC et BFM TV. Je suis avec Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes dans le Tarn?
Oui, tout à fait.
Je sens l'accent. Je l'entends, cet accent. Vous êtes ambulancier, Christophe, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Bon, auditeur d'RMC, ou RMC Découverte, la télé? Voilà.
Tous les jours, je vous écoute. J'adore votre émission. Je me régale à vous écouter tous les matins.
C'est gentil, Christophe. D'ailleurs, je voudrais remercier parce qu'on a battu des records d'audience la semaine dernière sur RMC Découverte. Et je voudrais remercier toutes celles et ceux qui sont avec nous le matin. Christophe, vous avez gagné votre machine à café et les capsules qui vont avec.
C'est super. Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Et j'en suis très heureux, mon cher Christophe. Et passez une très belle journée, Christophe.
Pareillement.
Avec nous.
À vous aussi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Merci, au revoir.
6h59.